Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et tous les jeudis, on parle de l'actualité des polars, des thrillers et autres romans noirs dans le réveil culturel. Émission coordonnée par Corinne Amar, réalisée ce matin par Christine Robert avec la technique Julien Douminc. Et un auteur de romans noirs s'attaque à une fiction du réel et imagine l'assassinat du président Emmanuel Macron. C'est un roman fake news, mais c'est volontaire. C'est un roman qui joue avec les codes du genre en l'alimentant par tout ce qui caractérise notre époque. Une satire donc tragicomique, Tuer Jupiter est le titre de ce roman édité par la Manufacture du Livre. Et je reçois ce matin son auteur, François Médeline.
Le réveil culturel. Jeudi, polar.
Bonjour François Médeline.
Bonjour Toufik Hakem.
Vous tuez donc le président Emmanuel Macron dans votre roman Tuer Jupiter. Le président en exercice est empoisonné en 2018. Donc vous imaginez la France qui vient de perdre son président avant les fêtes de fin d'année. Ça ressemble quand même furieusement à un coup d'éditeur.
Non, je pense pas, parce que en fait c'est pas de cette façon-là que j'écris. Et j'écris ce roman sur l'Atlantique Nord, en traversant l'océan, et j'ai pas de démarche commerciale, on va dire, dans mon écriture. Et quand j'étais, si vous voulez, au milieu de creux de 5 mètres, en train d'écrire une scène sur Donald Trump la nuit, ma préoccupation, c'était pas de savoir le nombre de livres que j'allais vendre, mais de savoir si Donald Trump n'allait pas déclarer la guerre à l'Iran, parce que j'écris sur de l'ultra contemporain. Et puis au regard de mes deux précédents romans, et du nombre de ventes, puisque par exemple j'ai vendu 648 grands formats des rêves de guerre, je pense pas qu'on puisse me soupçonner d'avoir une démarche commerciale dans ma façon d'écrire.
Donc c'est pas une idée qu'on vous a suggérée. Alors comment vous êtes arrivé à imaginer l'assassinat du président? Est-ce que les comparaisons qu'on a pu faire d'Emmanuel Macron avec JFK ont été à l'origine de ce projet de livre?
Je pense qu'inconsciemment oui. Parce que j'ai beaucoup lu James Ellroy, American Tabloid, sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy.
Donc c'est en passant quand même par le roman, ouais.
En passant par le roman, j'ai vu un film télé qui a été produit au cinéma, qui s'appelle All the Way, sur Lyndon Johnson. Et puis c'est à ce moment-là, en fait, que je voulais saisir mon époque, on va dire, sans prendre de gants. Et cette époque-là, voilà, c'est une époque où on nous parle d'intrusion sur les réseaux, sur les systèmes d'information de Russes aux États-Unis. C'est une époque où Donald Trump fait de la politique étrangère sur Twitter. Voilà, c'est la société du spectacle 2.0. Et à un moment, je sais pas lequel, ça a dû se rencontrer en moi. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai inventé finalement la plus incroyable des fake news. Un prétexte, en fait, à raconter notre époque telle qu'on la vit et telle que je l'aperçois.
Alors, ce livre, vous l'avez écrit, ou du moins, vous l'avez remis à votre éditeur au printemps. Entre-temps, il s'est passé des choses. Entre-temps, on a l'impression que votre fiction, où vous imaginez l'assassinat du président, a été dépassé par le réel, avec tout ce qui s'est passé cet été, cette séquence Benalla, comme un proche du président dans sa garde rapprochée, qui s'occupe de sa sécurité, va s'improviser policier, allant matraquer des manifestants. Comment vous avez réagi à cette séquence cet été?
En fait, il y a une difficulté dans l'écriture, c'est que voilà, j'écris sur de l'ultra contemporain réel, donc j'ai eu une inquiétude égoïste et littéraire. C'est-à-dire que je me suis dit, s'il débarque Gérard Collomb, étant donné par exemple que c'est un personnage important du livre, fallait réécrire le bouquin. Après, ce que je me suis dit aussi, c'est que finalement, cette affaire illustre assez le propos qu'il y a développé dans ce livre, entre les lignes de ce livre.
C'est-à-dire, c'est quoi ce propos entre les lignes de Tuer Jupiter, François Médeline?
Si vous voulez, c'est construit comme un thriller, et je pense qu'on peut le prendre comme un pur roman noir de politique fiction, mais voilà, j'ai mis une phrase de Marshall McLuhan en exergue, qui est un grand sociologue canadien des médias, qui disait que le médium est le message.
Ouais, mais ça, c'était la fameuse référence du XXe siècle.
C'est-à-dire qu'en fait, je pense que il avait vu que la télévision, la radio, disait-il, avait pris le contrôle de notre système nerveux central. Et maintenant, en fait, on est passé dans un autre monde où la rencontre finalement entre l'intelligence de calcul et la fibre optique fait que de grandes entreprises, pour la plupart américaines, ont pris le contrôle de notre système hormonal. Ce qui fait que, par exemple, si vous allez en balade avec vos enfants, faire l'ascension d'un mont, quoique l'exemple n'est peut-être pas bon, c'est que vous aimez marcher, mais l'important parfois c'est plus de gravir cette montagne, c'est de savoir combien vous allez avoir de likes Facebook sur la photo de vos enfants, tout simplement parce que d'ailleurs c'est Rosenstein qui est un ingénieur qui a créé la fonction like sur Facebook. Ça génère en fait une quantité de dopamine, ça c'est l'hormone du plaisir et ça sécrète en vous, et voilà, on est quand même confronté à une nouvelle technologie voilà, qui change vraiment notre rapport au monde, et où on ne sait, ce qu'on appelait la réalité était sans doute faux avant, mais désormais on s'en rend compte, et ce qu'on appelait virtuel a l'air désormais bien réel. Donc je pense que ce livre parle aussi de ce monde-là dans lequel on vit.
C'est écrit en épousant la forme des discours officiels d'aujourd'hui, des rapports qu'on peut faire aujourd'hui, les tweets, l'écriture tweet, l'écriture des réseaux sociaux, comment vous utilisez d'ailleurs les articles de journaux, les communiqués officiels en réaction à la mort du président Macron fictionnel. Ça fait partie justement de ce plaisir que de lire ce roman. C'est comme si c'était un inventaire de tout ce qui s'écrit et comment on l'écrit dans le monde d'aujourd'hui. Et dans ces donc nouveaux supports de communication.
Ah oui, c'était un peu ma façon, si vous voulez, de montrer que désormais le monde n'a plus que 2 minutes d'existence. Et plus que jamais, on le voit bien, le monde s'écrit. Vous parliez tout à l'heure de l'affaire Benalla. Voilà, l'affaire Benalla, c'est quoi l'important dans l'affaire Benalla? Est-ce une affaire d'État? À titre personnel, je ne pense pas. Est-ce que le président de la République est entouré de barbouzes, comme certains hommes politiques l'ont dit? A priori, je ne pense pas. Mon grand-oncle était barbouze du général de Gaulle. Je vous assure que c'est une insulte à la barbouzerie que de dire des choses comme ça. Mais ce qui est important sur l'affaire Benalla, c'est 2 choses. C'est que, 1, on s'est rendu compte que si c'était un CRS qui avait fait la même chose, il n'y aurait pas de problème. Donc on interroge le monopole de la violence légitime qu'on donne à l'État. Et la deuxième chose la plus importante à mes yeux, c'est la quantité de data. Qui a été produite, parce que c'est celui-ci le monde dans lequel on vit, et voilà, c'est un déchaînement incroyable. Enfin, je pense que des gens intelligents, éduqués, je pense même à un petit texte de Michel Onfray où il est sous-entendu que le favori du roi, alors vous lisez comme vous voulez, mais moi je l'ai lu comme voilà, peut-être qu'Emmanuel Macron en fait est avec Alexandre Benalla. J'ai même vu sur les réseaux sociaux que Emmanuel Macron, Brigitte Macron et Alexandre Benalla formaient un couple à trois. Donc ouais, on vit quand même dans ce monde assez étrange où voilà, on est dans un médium très très bouillant en fait, qui en appelle pas à l'intelligence individuelle ni collective. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai fait un livre, parce que McLuhan l'aurait dit, c'est un médium froid, et ça en appelle justement à la réflexion, à la responsabilité de chacun, moi le premier, qui peut avoir un usage parfois stupide en fait de cette niveau de technologie qui est pas mauvaise en soi. C'est juste que finalement on y retrouve l'humain, ce qu'on y met dedans, et c'est pas toujours très glorieux à mon sens.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir écrit un polar, un faux polar qui est une vraie satire de la société politique?
Oui, je pense qu'on peut le formuler ainsi. Si vous voulez, moi je viens d'un mauvais genre, comme on le dit. J'ai écrit 2 romans noirs. Voilà, c'est ma filiation. J'ai lu Chandler, Hammett, Jim Thompson, David Goodis, James Ellroy. Donc c'est quelque chose que je revendique assez. Et il y a un côté, voilà, je pense, une mécanique du suspense dans ce roman, parce qu'on veut savoir qui a commandité le crime. Donc j'ai repris en fait des codes du thriller, des thrillers politiques. Mais en même temps, j'ai utilisé la ressource comique, parce que quand vous écrivez, vous pouvez utiliser plusieurs focales. Moi, j'utilise plusieurs voix, mais vous pouvez utiliser aussi plusieurs focales. Et je pense que ça m'a permis, si vous voulez, la ressource de l'humour. m'a permis en fait d'avoir un rapport assez irrévérencieux au monde politique que je connais bien.
Et on va en parler, puisque effectivement, ouais. vous avez travaillé dans ce monde.
Et en fait, désormais, voilà, la politique est organisée. Le rapport qu'on a à la communication politique, finalement, c'est assez horizontal avec un chef. Et tout le monde, en fait, est sur un. C'est très horizontal. Tout le monde est sur un pied d'égalité, et finalement, tout le monde a la même légitimité à parler. Et donc, on a un rapport assez fanatique ou violent, finalement. Vous voyez, si vous êtes dans la chapelle Macron, quand vous exprimez sur les Insoumis, c'est ultra violent. Si vous êtes dans la chapelle Macron, dans la chapelle des Insoumis, si voilà, vous allez, par exemple, publier des photos où le président de la République est brûlé, enfin, pas le président de la République, hein. sa petite marionnette est brûlée lors d'une manifestation. Donc, j'ai pensé que ce rapport irrévérencieux, si vous voulez, au monde politique était aussi une bonne façon d'avoir une distance critique par rapport à ce monde-là.
Alors, revenons à l'intrigue, revenons au roman, revenons à votre côté écrivain, François Méline, dans « Tuer Jupiter, le président est donc assassiné », officiellement par un intégriste islamiste de Daesh, mais le roman va se charger de nous mener vers d'autres pistes, tout aussi plausible. Alors, sans spoiler le roman, disant que l'extrême droite et la Russie de Poutine seront convoqués dans ce roman qui prend d'ailleurs très au sérieux la géopolitique. Et la structure du roman vous aide, parce que c'est un roman inversé du coup. Le livre s'ouvre d'emblée sur les obsèques du président assassiné, ce qui vous permet d'ailleurs de donner un rôle prépondérant à Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Et puis ensuite, on remonte avec vous, avec le roman, au fil des pages, quelques semaines plus tôt, jusqu'aux prémices de l'attentat et donc des raisons de cet assassinat.
Oui, sans spoiler le livre, on va dire que une forme de complot. Je suis parti d'un prétexte, l'assassinat du président de la République, et j'ai écrit ce que j'appellerais un algorithme littéraire. C'est une suite d'opérations logiques non ambiguës. Et il fallait que mon résultat, en fait, ça soit... qui a tué le président de la République, qu'on est le commanditaire. Donc c'est vrai que ça m'a plu en fait de faire cette construction-là, et ça renvoie au propos du livre, parce qu'un algorithme, il faut que ça consomme peu de mémoire, peu d'énergie et peu de temps, et un algorithme littéraire, il faut que ça consomme beaucoup d'intelligence, beaucoup d'émotions et beaucoup d'humour si possible. Donc je pense que dans la construction...
Et le but c'est quoi? C'est d'arriver à quoi? Un algorithme c'est pour arriver à un but précis. Vous c'est quoi? C'est pour dire que les méchants d'aujourd'hui ne sont pas ceux que l'on désigne ou que les vrais ennemis de notre vieille démocratie ne sont pas peut-être ces fous barbus sanguinaires, mais qu'il faut les chercher, ailleurs, les commanditaires. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, François Méline?
Ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans une société d'hypercommunication qui déforme la réalité. Et voilà, oui, on nous sert un discours dominant.
On arrive à Poutine, dans votre livre.
Ouais, Vladimir.
Ouais.
Vladi. Non, mais je ris parce que j'ai essayé de le présenter de façon douce, sur le plan intime. Et puis, finalement, c'est quand même quelqu'un qui prend des décisions qui ont un impact sur l'avenir de son peuple et sur l'avenir de l'humanité.
Et qui peut empoisonner ses opposants comme des chefs d'État étrangers.
Il y a une allusion à Skripal dans le livre, et puis voilà, j'avais imaginé l'empoisonnement, puisque c'est ça, hein, moi c'est un empoisonnement du président Macron avant Skripal, mais bon, c'est une grande tradition soviétique, hein, le parapluie hongrois... Et donc je l'ai quand même présenté pour, j'imagine, ce qu'il est, même si j'ai pas de rapport intime avec lui, c'est-à-dire quelqu'un avec une poigne de fer qui prend des décisions violentes, parce que dans les démocraties représentatives, parce que finalement c'est quelqu'un d'élu, ben, y a toujours des gens qui mettent les mains dans le cambouis et qu'on met aux responsabilités. Et ça peut être le cas en France aussi, puisque le président, par exemple, a la capacité de commander des opérations homo, donc le droit de vie ou de mort sur des gens.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et ce France Culture, si on écoute Olga Marquez, c'est-à-dire la chanteuse du groupe russe Dolbany Cosmos, eh ben c'est, j'allais dire, c'est à cause de vous, François Medline. Non, mais c'est uniquement parce que vous la mettez en scène dans votre roman « Tuer Jupiter » qui nous mène de l'assassinat du président Emmanuel Macron jusqu'à l'entourage très proche de Vladimir Poutine. Ceci explique cela. C'est un groupe que vous écoutez, ce groupe russe ?
Non, c'est en fait lié à une publication de mon éditeur qui avait une collection justement Zapoy de littérature russe. Et c'est surtout la grande prêtresse du vivre saint en Russie, et ça m'a permis justement de faire, puisque c'est Poutine qui l'écoute, d'en faire quelqu'un intimement plus sympathique que ce que peut paraître l'agent Platov du KGB.
Quand on met en scène des hommes politiques ou du monde des médias, bref, des gens connus, des personnalités publiques, quand on les fait entrer dans une fiction, est-ce que c'est un exercice contraignant? Car il faut impérativement qu'ils restent conformes à ce qu'on sait d'eux, un minimum. Ou au contraire, vous avez un plaisir justement à les sortir de leur contexte, de ce qu'on sait d'eux, de ce qu'on perçoit d'eux, de ce qu'on croit savoir d'eux pour les emmener dans votre monde de fiction.
Je veux dire, il y a deux problèmes. Je pense qu'il y a un problème moral et un problème politique. Vous voyez, parce que ce sont quand même
Là, en l'occurrence, il s'agit d'hommes politiques,
ouais. Ouais, voilà. Par exemple, voilà, j'ai écrit une scène, je ne révèle rien du livre, où le président Macron est sur la table de l'embaumeuse. Donc vous posez quand même la question, hein, avant de le faire. Et en plus, j'ai appelé ça Babylone, comme son premier manuscrit, puisque il voulait être romancier. Ça, c'est comme quand vous faites du saut à l'élastique, je dirais. Ah, vous êtes en haut, vous n'avez pas trop envie d'y aller, et puis à partir du moment où vous avez sauté, vous avez sauté. Et après, là, vous êtes confronté au problème d'ordre littéraire. La vraie difficulté, si vous voulez, c'est d'être crédible, parce que il y a forcément un côté burlesque dans le traitement que j'en fais.
C'est contradictoire. Il faut être crédible ou il faut forcer le trait burlesque pour bien montrer qu'on est dans une fiction?
Je dirais qu'il faut un peu des deux à la fois pour mettre la distance qui permet de se dire qu'on est dans une fiction et puis être le plus crédible possible. Si on prend par exemple, il y a une scène avec Trump, voilà, qui prend des décisions de politique étrangère avec son fils Barron en regardant Fox News, une émission sur Golf Channel, et en parlant au directeur de la NSA, le tout dans une baignoire en or où trempent ses pieds remplis de glaçons qui sont faits avec une eau minérale de l'Arkansas parce que Hillary Clinton a ratatiné Hillary Clinton dans l'Arkansas. Donc, si vous voulez, il faut que ça corresponde quand même à Donald Trump et à l'image que les gens s'en font dans la représentation qu'ils ont du personnage. Donc là, typiquement, pour Donald Trump, ben en fait, j'ai enlevé un peu de la réalité comique du personnage. Vous voyez, parce que c'est quand même le président des États-Unis d'Amérique et voilà, c'est une personne qui fait des tweets, d'ailleurs c'est le nom d'une partie, où il invente des pays. Et la COVVF, par exemple. Donc voilà, il faut coller au personnage, qui a l'air grotesque. Et puis, dans ce cas-là, il fallait en enlever un peu pour que ça reste crédible.
Tu es Jupiter, publié à la Manufacture de Livres, et votre troisième roman. Les deux premiers parlaient de politique aussi. Hein. La politique du tumulte revenait sur les années 90, où la droite se déchirait entre Chirac et Balladur, avec des crimes qui ressemblaient furieusement à ce qu'on a connu à l'époque, c'est-à-dire l'affaire Ranucci, l'affaire Allègre. Votre deuxième roman parlait de politique, même s'il y avait un contexte historique, c'est-à-dire les traumatismes tuent, enfuient de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Ce roman parle donc vraiment d'aujourd'hui, mais avant d'être romancier, François Medline, vous qui avez étudié Sciences Po à Lyon, vous qui avez fait d'ailleurs une spécialité en sociologie politique, vous avez travaillé dans ce monde-là. Vous avez été conseiller, plume, puis directeur de cabinet, directeur de la communication de divers élus de 2008 à 2017. Hein. C'est-à-dire que ce monde que vous décrivez dans votre troisième roman, vous le connaissez bien.
Oui, je le connais très bien puisque j'ai été ce qu'on appelle un collaborateur politique. Donc, si vous voulez, ça m'a permis finalement d'avoir un matériau facile d'accès et de savoir comment se passent les choses, ce qui est important en politique.
Comment on y rentre ?
Moi, j'y suis rentré parce que j'étais romancier, enfin parce que j'écrivais. Donc en fait, il recherchait des plumes, parce que c'est quelque chose qui est peu fréquent en fait sur le marché politique, la plume. Et donc par réseau en fait.
Mais c'est pourquoi pour écrire des discours, voilà, de communiquer.
Bah, alors moi j'ai écrit des discours. Ça peut aller d'un discours de vœux à un discours sur la laïcité. Voilà, vous êtes avec un élu pendant 2 minutes, il vous dit voilà, il faut me faire un discours sur la laïcité. Tac tac. En général, ça se limite à ça. Vous enfermez dans votre bureau, vous écrivez votre discours, vous revenez avec lui, vous le retravaillez et puis après, quand il va prononcer, c'est plus votre discours, c'est le sien, exactement comme Henri Guénaud le faisait avec Nicolas Sarkozy ou comme les plumes de Emmanuel Macron. Après, j'ai fait de l'agenda politique. Hein. Vous avez d'ailleurs Aurélie Filippetti qui le dit très bien dans une interview qu'elle a faite récemment dans Les Irrécuptibles suite à son dernier livre, la prééminence de l'agenda politique, où voilà, la vie de l'homme politique n'est pas, ou de la femme politique n'est pas faite pour penser, hein, mais pour être remplie en fonction d'objectifs. Donc voilà, il y a un sondage qui paraît, le président Macron a l'air méprisant. En voyant-le en Bretagne regarder un match de foot dans un bar, vous voyez, ça se passe comme ça. J'ai été plume, j'ai été directeur de cabinet et j'ai été directeur de la communication, conseiller, donc bah voilà, conseiller politique.
Il y avait un peu vos convictions politiques dans le travail que vous faisiez à l'époque avec ces hommes politiques. Je suppose que vous avez travaillé plutôt avec ceux qui étaient catalogués à gauche ou...
Oui, je suis de gauche, mais je suis allé travailler pour moins à gauche que ce que je suis, puisque j'ai travaillé pour des socialistes. J'ai pas de profil militant, donc en fait je suis allé travailler parce que je connaissais bien les personnes et que j'avais plutôt confiance. Mais après vous calez en fait sur les orientations politiques parce qu'en fait c'est votre métier et vous êtes là pour ça. Après vous pouvez nourrir intellectuellement évidemment la personne. Je suppose que quand Ismaël Emanian parle avec Emmanuel Macron, il y a un échange entre eux qui permet au président de pouvoir prendre ses décisions.
François Mitterrand, vous êtes né la même année qu'Emmanuel Macron, en 1977. Vous l'avez croisé, vous l'avez rencontré dans votre carrière de plume ou de collaborateur d'homme politique ?
Il voulait être romancier. Moi, je voulais plutôt être Napoléon quand j'étais petit. J'avais des rêves bizarres. La politique m'obsédait un peu, c'était mes petits dieux. Et puis, il est devenu président, et donc moi je voulais être Napoléon, et je suis devenu romancier. Et le fait est que je suis né en même temps que lui, et que finalement on faisait le même métier, puisque il était collaborateur politique socialiste.
Oui, vous êtes rencontré.
Oui, on s'est rencontré lors d'un déplacement à l'époque il était ministre de l'économie, et lors de ce déplacement-là, en fait, il y avait une séquence militant où il n'était plus ministre, où il est allé s'exprimer devant les militants socialistes. Donc, je l'ai rencontré à ce moment-là. Je l'ai conduit même à ce moment-là, mais on n'a pas eu, si vous voulez, je vais pas inventer une histoire. Hein, on n'a pas eu de rapport très direct, puisqu'en fait, il venait surtout voir mon patron.
Vous avez envoyé le livre à l'Élysée.
Écoutez, je ne sais pas si mon éditeur, pour vous dire la vérité, a envoyé le livre à l'Élysée, mais je pense qu'on a un ministère de l'Intérieur et donc le livre a dû au moins être lu par les collaborateurs du ministre, voire ceux du président de la République.
Et pas de réaction ?
Écoutez, pour l'instant non, mais je vois pas pourquoi il y aurait une réaction, parce que voilà, c'est un livre de fiction qui interroge sur notre monde et c'est pas un livre militant et anti-Macron.
Tu es Jupiter, manufacture de livres. Merci François Medline d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci beaucoup à vous.